Nous venons de fêter Noël et déjà nous lisons ensemble l'histoire de Jésus à 12 ans. La semaine prochaine, nous fêterons l'Épiphanie, la fête du moment où les rois mages sont venus se prosterner devant l'enfant Jésus à peine né. Et la semaine suivante, nous entendrons sans doute parler du baptême de Jésus. Alors la lecture des textes bibliques qui nous est proposée dans le calendrier n'a pas l'air de suivre une chronologie très logique. Et pourtant, comme je le disais, cette notion de vide fait que nous n'avons pas de récit de Jésus entre ce moment de sa naissance et ce moment important où il commence à enseigner. Mais il enseigne à 12 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ? Et c'est vrai qu'à la lumière immédiate de Noël, c'est intéressant de se demander, mais où est-il donc ? Joseph et Marie sont les parents qui forment la Sainte Famille, mais ils ont perdu l'enfant Jésus. Ils ne savent pas où il est. À première vue, il était bien avec eux sur le chemin du retour. Une lecture plus attentive révèle qu'un fossé profond, qui n'est pas simplement géographique, s'est creusé entre Jésus et ses parents. Un fossé qui ne va pas se combler au prétexte qu'ils se retrouveront ensuite physiquement. Pour bien comprendre cela, on peut se poser la question, où se trouve donc Jésus ? Observons d'abord Joseph et Marie. Les parents de Jésus, au verset 41, sont présentés d'emblée comme pieux, puisqu'ils vont chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque et qu'ils y vont en famille, non seulement le chef de famille, mais aussi tous ceux qui l'entourent, avec d'autres pèlerins. Et c'est donc tout un groupe qui voyage. Dans un groupe, vous savez ce qui se passe, il y a des sous-groupes, il y a des gens qui ont plus d'affinité avec d'autres, qui ont envie de se parler. C'est là que se font ou se défont certaines sympathies. La vitesse de la marche n'est pas la même, les intérêts communs parfois non plus. C'est un peu comme quand aujourd'hui on assiste ou qu'on participe à une randonnée en groupe. Finalement, même sur quelques heures, on peut se représenter comment les parents ont pu penser que Jésus était avec d'autres personnes dans la marche, sans forcément le voir à chaque instant. Aller tous les ans pour la fête de la Pâque à Jérusalem et Nazareth-Jérusalem à pied, c'est pas anodin, ça fait à peu près 30 heures de marche. 30 heures. Alors, il faut penser qu'il y a le retour aussi. C'est de nouveau 30 heures à répartir sur plusieurs jours de pèlerinage. On ne fait pas ça chaque année sans une certaine motivation. Je dirais même une profonde motivation. Et cette image de famille pieuse autour de Jésus peut nous motiver à notre tour à prendre quelques bonnes résolutions dans cette prochaine année, pour peut-être fréquenter encore plus assidûment nos activités paroissiales ou respecter nos engagements même par ailleurs. Et puis, nous pouvons aussi nous dire qu'après tout, la Sainte Famille, c'est un peu normal qu'elle apparaisse comme parfaitement pieuse. Ceci dit, voilà la Sainte Famille décrite comme un peu agissant sans réfléchir, par coutume. Ils agissent par habitude, sans se poser de questions. Ils attendent quand même un certain temps avant de se rendre compte que Jésus n'est pas avec eux. Tels des automates, ils font, ils répètent toujours les mêmes gestes, les mêmes rituels chaque année. Ils suivent la loi qui devient une routine. Leur comportement se calque sur le comportement habituel et ils suivent. Joseph et Marie se conforment à l'usage. Ceci dit, ils ont quand même perdu Jésus. À l'opposé, voyons ce qui anime Jésus maintenant. C'est de s'occuper des affaires de son Père, d'être dans la maison du Père. Selon les traductions de la Bible, il y a ces deux expressions. Et nous comprenons que le Père dont parle Jésus n'est pas le Père biologique. Il n'est pas le Père selon la coutume ou selon l'usage. Le Père dont parle Jésus est le Père avec un grand P, auquel il rendra témoignage dans la suite de son histoire. Le Père qui est célébré au Temple de Jérusalem, c'est-à-dire Dieu. Se trouvant au milieu du texte, exactement cette phrase qu'il dicte, qu'il donne, et qu'il est aussi en plein au milieu des docteurs de la loi. Jésus s'occupe donc des affaires de Dieu. Le rédacteur nous dit qu'il écoute et qu'il interroge. Et sa manière de faire suscite l'émerveillement autour de lui. Cette histoire nous permet de découvrir l'intelligence de Jésus, tout jeune adolescent, capable de discuter avec les maîtres de la loi dans le temple. Jésus apparaît ici comme un enfant surdoué, capable de comprendre bien avant l'âge normal les choses de Dieu. Mais après tout, vous allez me dire, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. À quoi pourrait-on s'attendre d'autre? C'est un enfant précoce, donc est-ce si original et merveilleux que cela pour nous aujourd'hui? En fait, il prend la parole au milieu des docteurs de la loi et il n'a que 12 ans. Un an trop jeune, si on regarde la règle de l'époque, qui est que la bar mitzvah consistait à une prise de parole au cœur de l'assemblée à partir de l'âge de 13 ans. Donc là, il y a un signe, il y a un symbole important qui nous est donné. C'est un an avant. En étant au milieu de l'assemblée et au milieu du texte, il devance l'appel. Il transcende la règle qui dit que c'est à 13 ans que cela doit avoir lieu. Mieux, à 12 ans, il accomplit ce que les docteurs les plus aguerris semblent ne pas parvenir à réaliser. En fait, qu'est-ce qu'il nous apprend ? Nous apprenons que nous ne sommes pas condamnés à nous enfermer dans une règle immuable. On a d'un côté ses parents qui suivent une règle, une routine, un usage, et on a Jésus qui commence à enseigner. Nous apprenons que nous ne devons pas être prisonniers d'une règle établie par d'autres, en d'autres temps et en d'autres lieux. Contre le fantasme un peu fou d'une règle éternelle, valable en tout temps et en tout lieu, une règle unique à laquelle tout le monde devrait se soumettre sans se poser de questions, Jésus oppose la liberté personnelle de faire mieux que ce que la loi propose. Il relativise la loi et sa prétention à régenter tout l'univers. Jésus pose que nous n'avons pas à rechercher l'uniformité, je dirais même que nous avons à l'éviter, car elle nous soumet à un ordre de choses inférieur à ce que nous pouvons espérer lorsque nous conjuguons nos talents respectifs, lorsque nous laissons s'exprimer nos singularités, lorsque nous faisons valoir notre propre personnalité. Éviter l'uniformité, c'est reconnaître la diversité de nos êtres et de nos existences. Maintenant, on a vu les parents, on a vu Jésus, mais il y a une rencontre de nouveau. Ils ne sont pas perdus pour toujours. Alors, où se trouve Jésus? Tout d'abord, loin, assez loin de ses parents. Certains diraient même sur une autre planète. Qu'ont-ils en commun? Peu de choses. Tant de choses les séparent que leurs trajectoires respectives sont ici décrites comme un grand écart. Il y a d'un côté ceux qui fréquentent le temple de manière rituelle, par conformisme, sans penser à ce qu'ils font, sans même écouter, sans interroger, contrairement à ce que fait Jésus. Non, je ne ferai pas une interpellation de ceux qui viendraient par routine au culte le dimanche matin, mais peut-être que cela nous interpelle dans notre présence ici et maintenant, chaque fois que nous venons pour écouter la parole. Et nous pouvons bien aussi nous identifier aux parents de Jésus qui tout d'un coup découvrent que leur enfant a disparu et qui le cherchent pendant 3 jours avant de le trouver là où ils n'auraient vraiment pas pensé le chercher, à savoir parmi les étudiants et enseignants de la Torah réunis dans le temple de Jérusalem. L'angoisse, la colère peut-être, qui vient de cette angoisse, puis ensuite le soulagement, l'incompréhension et le besoin de comprendre comment on en est arrivé là, comment cet enfant est arrivé là, nous pouvons les imaginer facilement, ces parents angoissés. Qui parmi ici, les parents ou ceux qui ont été parents, n'ont pas parfois égaré un de leurs enfants? Constatant que Jésus n'est pas avec eux après une journée de voyage sur le chemin de retour, ils ne sont tout de même pas aussi insensibles que cela pourrait paraître. Ils ne s'obstinent pas en continuant leur chemin, ils vont au contraire, avec toute leur sensibilité de parents, rebrousser chemin. Ils vont se rendre compte que leur fils manquait à l'appel. Ils font demi-tour comme celui qui se convertit, celui qui reconnaît s'être trompé de route et qui a pris une mauvaise direction. Et puis tous les parents d'adolescents d'un côté, tous les adolescents ou anciens adolescents de l'autre. Bon, il n'y en a pas beaucoup ce matin ici, mais il y en a quelques-uns quand même. Les anciens adolescents, nous sommes tous des anciens adolescents finalement. Voient bien ce qui se joue dans le dialogue entre Jésus et Marie. D'un côté, Marie, elle se demande pourquoi Jésus leur a fait ça. Leur a infligé cette douleur et cette angoisse de ne pas savoir où il était, de ne pas savoir ce qui avait pu lui arriver, et même s'il était encore en vie. Et cette angoisse, eh bien, c'était celle de tout imaginer des horreurs possibles, et même improbables, tant qu'il n'était pas retrouvé. De l'autre côté, Jésus. Tu ne vois pas pourquoi il aurait un problème. Après tout, il était en sécurité au temple, à écouter l'enseignement des rabbins, et en plus il avait une activité tout à fait recommandable, surtout selon les critères de son éducation, dans une famille pieuse, et donc assidue à la lecture de la Torah. Il est assez grand pour s'occuper de lui-même, non ? À 12 ans. N'avons-nous pas eu la même réaction à 12 ans ? L'incompréhension de part et d'autre, comme si souvent on le voit entre parents et adolescents. On pourrait même appeler cette histoire la crise de l'adolescent, d'un enfant surdoué, mais néanmoins obéissant, car la fin du récit nous dit qu'il obéit. En écrivant ce passage, que fait Luc ? Il nous montre la manière parfaite dont Jésus grandit apparemment en force, en sagesse, en grâce, non seulement pour Dieu, mais aussi pour l'humanité qui l'entoure. Et c'est là qu'il est important de lire ce récit à la lumière de Noël. C'est là où finalement cette chronologie qui ne nous semblait pas logique peut prendre un sens. Noël, c'est la fête du jour où Jésus naît parmi nous. Dieu est avec nous. C'est la fête du jour où, à un moment précis de notre histoire humaine, Dieu vient prendre chair. Il vient vivre avec nous notre vie humaine. Et cet événement, cette incarnation de Dieu, elle n'aurait pas de sens si ce Dieu avec nous planait dans une sorte d'idéal, d'une vie parfaite, comme si cette vie serait débarrassée de toutes les contraintes, de toutes les difficultés matérielles, mais aussi psychologiques et relationnelles qui constituent notre vie humaine. Ce que Luc nous raconte là, après toutes ces histoires parfaites autour de la naissance de Jésus, avec toutes ces précisions parfaites sur Jésus lui-même, la force, la sagesse et la grâce de Jésus, c'est que Dieu en Jésus est vraiment venu avec nous, vivre notre vraie vie humaine, pas une vie idéalisée, mais notre vie réelle. Il est venu naître dans une famille ordinaire, une famille pieuse. Vous me direz que cette famille n'est pas si ordinaire que cela, avec un père qui n'est pas le père biologique. Mais peut-être bien que c'est ça justement une famille ordinaire, une famille qui finalement a aussi quelque chose de particulier chaque fois, de différent, qui ne rentre pas complètement dans toutes les cases d'une société trop normée. Ainsi, Jésus est né dans une famille ordinaire, qui ne rentre pas dans toutes les cases. Et heureusement pour toutes les familles d'aujourd'hui qui ne rentrent pas dans toutes les cases et qui peuvent encore s'identifier à cette famille-là. Cette famille ordinaire, Jésus y prend une place normale d'enfant. Si parfait qu'il soit dans notre imaginaire, il a dû grandir, il a dû devenir le jeune homme qui un jour est parti annoncer la bonne nouvelle sur les routes. Il a dû écouter les rabbins parler de la Torah pour apprendre d'abord, apprendre leur pensée, découvrir sa propre pensée tellement plus en accord avec le sens véritable de l'histoire de Dieu et avec l'humanité que celle qu'il avait entendue parmi les maîtres de la loi. Il a dû un jour, comme tout enfant devenant adolescent, faire comprendre à ses parents qu'il était maintenant capable de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions, de penser par lui-même. Jésus, tout à l'opposé de ses parents, révèle qu'au-delà de la loi se profile quelque chose d'indispensable qui plus tard sera appelé évangile. L'évangile qui renvoie à cette possibilité pour notre vie de se métamorphoser en existence, c'est-à-dire une vie qui a du sens. Il y a une phrase célèbre qui dit « Il y a deux moments importants dans sa vie, les deux moments les plus importants, c'est le jour où on est né et le jour où on a compris pourquoi on était né. La révélation d'une vocation ou de la foi. Dieu a choisi de venir en Jésus vivre notre vie avec nous, notre vie imparfaite, et pas tous les jours faciles, afin que nous puissions le reconnaître avec Jésus comme notre Père, et plus comme le Dieu lointain que les êtres humains ont tendance à imaginer, ce Dieu lointain décidant d'intervenir dans nos vies selon ses envies. Alors de quel Dieu Luc veut nous parler lorsque Jésus évoque les affaires de son Père, lorsqu'il dit qu'il est dans le temple, dans la maison de son Père? Je le disais, il s'agit de ce Père avec un grand P qu'on appelle aussi le Père céleste ou encore le Très-Haut. Jésus renvoie à une transcendance qui ne se limite pas à nos images, à l'idée que nous nous en faisons. Dieu dépasse toujours ce que nous pouvons en penser ou en dire, et a fortiori ce que nous pouvons en faire. Jésus nous donne une image de la spiritualité un peu différente de la routine religieuse que ses parents ont pu lui servir jusque-là. Il la propulse hors de nos décombres, dans le firmament de l'extase, là où nous nous mettons à exister pour de bon. Il n'y a pas de soumission dans ce que propose Jésus, mais une pure libération de tout ce qui est en nous, libération de ce qui est le germe de la création et de la vie. Tout ce qui nous permet d'aider les autres à être debout face aux difficultés de la vie. Ceci pour dire que la caractéristique de Jésus sera de laisser sur son passage plus d'hommes et de femmes debout qu'il n'en avait avant qu'il arrive. Alors oui, à la question « Où se trouve Jésus ?», nous pouvons comprendre qu'il n'est pas là où se font les sacrifices. Il est avec les maîtres de la loi qui se réunissaient près du portique de Salomon, figure de la sagesse. Il est là où la parole se partage. Il est là où la parole ouvre de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons, de nouvelles compréhensions. La parole est le moyen par lequel ce qu'il y a de plus vrai progresse et prend de la consistance. Jésus ouvre la voie à une transcendance qui permet à notre vie de prendre ses justes dimensions, qui ne sont pas celles d'une pensée étroite, mais qui s'étalonnent sur l'infini de la grâce que révèle l'Évangile. Alors la bonne nouvelle dans cette histoire de la crise d'ado de Jésus, c'est celle qui nous fait porter au-delà des murs de nos églises la joie immense de Noël. Dieu est venu vivre au milieu de nous. Dieu a choisi d'être toujours parmi nous, il y a environ 2000 ans, près de Bethléem. Et il est resté depuis au plus proche de nous, par son Esprit Saint, afin de continuer de vivre avec nous notre vie humaine, notre vie réelle, imparfaite et pas toujours facile. C'est Noël depuis tous les ans et pas seulement le 25 décembre, car nous ne sommes jamais seuls et Dieu est avec nous. Amen.